Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, avec toutes les évolutions qui se font jour dans ce monde, avec tous les bouleversements, les incertitudes, les angoisses, dépressions et autres troubles psychologiques se généralisant autour de nous, quel privilège de savoir que Jésus est notre Sauveur. Quel avantage quand il est notre Seigneur. Et quelle glorieuse espérance quand nous l'attendons pour qu'il nous prenne un jour dans son ciel de gloire. On m'a rapporté aujourd'hui le cas d'un homme de 92 ans qui a des enfants, de nombreux petits-enfants, qui sont tous dévoués à s'occuper de lui. Il ne manque de rien, sa santé n'est pas mauvaise pour son âge, mais il fait de la dépression. Il ne voit pas les avantages et les bonnes choses qu'il a, ou les minimise. Il grossit tous les inconvénients et en fait des montagnes. En fait, il n'a pas d'espérance. Tel était le diagnostic que me faisait son fils. Et c'est toute la différence avec les vrais croyants. Et quel avantage, quelle force pour ces derniers d'avoir cette véritable et glorieuse espérance. Et c'est aussi ce qui nous donne la conviction, l'assurance, la foi que le Seigneur va répondre à nos prières quand nous allons nous adresser à lui et nous renouveler et nous régénérer, même et jusque dans la blanche vieillesse. Et ainsi peut-on expérimenter jour après jour que les jeunes gens se fatiguent et se lassent, les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Notre témoignage, anecdote d'aujourd'hui, est prévu pour s'adresser d'abord aux enfants. Mais ceux qui sont plus âgés pourront en tirer aussi du bien pour eux-mêmes, puisque le Seigneur nous invite à devenir comme les petits-enfants si nous voulons entrer dans le royaume des cieux. Et ainsi aussi, nul ne pourra prétendre que la leçon à en tirer sera trop difficile à comprendre. Ce témoignage a pour titre « L'agneau orphelin ». Et voici donc ce témoignage. Un matin, en faisant un petit tour aux écuries, car j'aime beaucoup les animaux, je trouvais mon frère auprès de ses brebis, l'air soucieux. Figure-toi que nous avons deux bêtes mortes cette nuit, c'est bien dommage. Une jeune brebis qui vient de nous donner son premier agneau, et puis là-bas, c'est l'agneau qui est mort. Mais la mère a pu être sauvée, heureusement. Je m'approchais plein de sympathie pour caresser le joli petit agneau noir, tout tremblant et bêlant lamentablement auprès de sa mère, inerte et glacée. Ne pourrait-on pas confier ce petit orphelin à l'autre brebis pour remplacer le sien qu'elle a perdu, suggérais-je. Cela peut te paraître simple, en effet, mais son agneau était blanc tandis que celui-ci est noir. Elle verra la différence, et cela m'étonnerait fort qu'elle veuille l'adopter. Essayons toujours. Et mon frère alla poser le nouveau-né sous les mamelles gonflées de lait de la brebis désolée. Hélas, il n'eut rien à faire. Dès qu'elle aperçut l'étranger, elle fonça sur lui, tête baissée, comme pour dire « Va-t'en, tu n'es pas mon agneau ». Elle l'aurait peut-être tué si on ne s'était pas empressé de le lui retirer. Pauvre petite bête, faible et chétive, elle avait bien soif, mais les mamelles alléchantes n'étaient pas pour elle. Mon frère eut alors une idée géniale. Il alla chercher l'agneau mort, le fit voir à la brebis qui se mit tout de suite à le lécher avec un bêlement de satisfaction. « Celui-ci est vraiment mon enfant », semblait-elle dire. « Je ne sais pas pourquoi il ne tète plus, il ne saute plus. Pourtant, c'est bien le mien. » Le fermier le lui reprit, alors, le fit bien vite dépecer, et de sa belle toison blanche et douce, il fit un manteau pour l'agneau noir, en le fixant solidement autour de lui au moyen de ficelles, malgré ses bêlements de protestation. Le pauvre petit agneau ne comprenait pas la raison de cet étrange déguisement qui le gênait dans tous ses mouvements et le tenait bien chaud. Ainsi métamorphosé, notre orphelin fut de nouveau présenté à la brebis solitaire qui, après l'avoir bien flairé dans tous les sens, sembla satisfaite de son examen, bien persuadée qu'elle avait affaire à son enfant ressuscité. Dès lors, l'adoption se fit sans aucune difficulté et le petit agneau noir trouva auprès de sa nouvelle maman tous les soins et le bon lait fortifiant dont il avait tant besoin. Aussi se développa-t-il normalement à la grande joie de mon frère et de ses enfants. Si je vous ai raconté cette histoire, mes petits amis, c'est parce qu'elle va vous aider à comprendre la chose la plus merveilleuse du monde. Par nature, Vous le savez bien, nous avons un cœur noir de péché. Vous voudriez être sage, faire ce que Jésus veut. Je m'adresse là à des petits-enfants, bien sûr. Mais voilà que l'ennemi vient toujours vous faire tomber, vous détourner du Sauveur. Vous savez aussi que les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal. Et alors, que faire? Il n'y a qu'un moyen. Comme le petit agneau noir de notre histoire, il faut nous laisser recouvrir entièrement par l'agneau blanc et pur qui, sur la croix, a donné sa vie pour nous. C'est Jésus. Il n'y a que lui dans l'univers tout entier qui ait jamais réussi à plaire à Dieu, car lui seul est sans péché. Mais me direz-vous, comment puis-je me couvrir du Seigneur Jésus pour m'approcher de Dieu? Voilà. Si vous mettez un beau manteau tout neuf sur vos vêtements troués, alors on ne les voit plus, ils sont cachés par le manteau. Ainsi, quand nous recevons le Seigneur Jésus dans notre cœur et que nous lui disons « Seigneur, je crois que tu es mort pour moi », alors c'est en lui et à travers lui que Dieu nous voit désormais. Il ne regarde plus du tout notre vilaine nature, il nous traite comme ses enfants bien-aimés à cause de Jésus. Pour en revenir à l'agneau de notre histoire, plus tard, mon frère a pu lui retirer sa toison blanche et la brebis, bien habituée à lui, continua à l'aimer malgré sa couleur noire. Mais avec Dieu, les choses sont différentes. C'est pour toujours que nous revêtons le Seigneur Jésus, comme le dit l'apôtre Paul. Nous ne pourrions jamais, pas même une minute, vivre une vie agréable à Dieu en dehors de Jésus. Ce vêtement divin qui nous recouvre ne se contente pas de cacher nos vilains haillons dégoûtants, mais il les fait disparaître. Et nous devenons en réalité devant les gens qui nous voient vivre ce que nous sommes devant notre Père Céleste. Vous pensez bien qu'un enfant qui a reçu le Seigneur Jésus ne peut plus continuer à être menteur, voleur ou égoïste. Cela ferait trop de peine à Jésus et il ne pourrait demeurer en lui. Mais à mesure que nous lui laissons de plus en plus de place dans notre cœur, il nous transforme à son image et nous devenons semblables à cet agneau immolé et qui bientôt reviendra pour nous prendre avec lui. Lequel de mes auditeurs sera le premier à répondre à son appel et à revêtir ce merveilleux vêtement divin? Amen. Voilà mes amis, nous allons maintenant prier encore avant d'ouvrir la parole du Seigneur. Te remercions Seigneur notre Dieu. C'est vrai que tu es celui qui a accompli cette œuvre extraordinaire pour que nous puissions être pardonnés, sauvés, changés, transformés par ton action, par ta puissance. Et merci parce que tu veux le faire pour chacune et chacun d'entre nous. Merci aussi pour ta parole par laquelle tu t'adresses également à nos cœurs et à nos âmes et par laquelle tu accomplis aussi ton œuvre. Sois glorifié, sois béni Seigneur. Amen. Amen. Voilà, je vous invite donc à ouvrir effectivement l'Écriture sainte dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 18. Et voici ce que dit l'apôtre Pierre à ses nombreux auditeurs. Repentez, donc déjà verset 18. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Amen. Voilà. Je voudrais vous raconter encore une petite anecdote. C'est l'histoire de cet homme qui a été sauvé en mer sur un couvercle de cercueil. Début 2014, le journal du soir donna cette information sur son site internet à Taipei. Donc, un couvercle de cercueil a été sa planche de salut. Bien que ne sachant pas nager, un homme a survécu 60 heures en mer au large de la côte taïwanaise. Il s'est cramponné à un couvercle de cercueil qui flottait sur l'eau. Vendredi matin, Tseng Lien Fa était en train de pêcher de jeunes anguilles sur un rivage de la région de Hualien lorsqu'une grosse vague l'emporta. Les médias du lundi suivant rapportèrent qu'il avait pu se cramponner à un couvercle de cercueil en bois passant à proximité de lui. Sur ce couvercle, j'ai été poussé et poussé encore, espérant toujours qu'un navire me sauverait, a déclaré Tseng au United Daily News. Finalement, l'homme a été rejeté sur le rivage dans la région sud-occidentale de Taitung, à 75 km du point de départ de son odyssée. Des membres de la garde côtière qui étaient à la recherche de Tseng depuis vendredi le trouvèrent là dimanche midi. Et je dirais que ce récit, c'est comme une parabole d'une vérité qui aurait difficilement pu être plus frappante. Nous avons certes pu considérer les parallèles comme relevant du hasard, mais qu'est-ce qui est du hasard ? Nous, les humains, ne sommes-nous pas tous des naufragés qui courent le grand danger de périr ? Ne sommes-nous pas tirés vers la profondeur, par le péché, la détresse et la mollesse, sous diverses formes ? Ne luttons-nous pas pour notre survie ? L'aspiration de la mort menace de nous engloutir. C'était un vendredi que cet homme fut emporté vers le large. Et ce vendredi-là, précisément, un couvercle de cercueil s'avéra être sa planche de salut. Cette marque de la mort lui permit de vivre. Notre texte biblique de départ nous rappelle cette triple réalité, cette triple grande vérité. Jésus sauve, Jésus vit, Jésus vient. Et ce sont sur ces trois grandes choses que nous voulons parler à présent. Premier chapitre donc, Jésus sauve. Celui qui connaît l'histoire chrétienne de la rédemption pensera immédiatement au Seigneur Jésus-Christ. Ce fut un vendredi qu'il mourut sur la croix, le jour que les chrétiens appellent le vendredi saint. Sa mort et son tombeau signifient, depuis lors, la vie pour ceux qui croient en lui et se cramponnent à lui. Ainsi est-il écrit dans la première épître de l'apôtre Pierre, au chapitre 2 et au verset 24. « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché nous vivions pour la justice. » Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Alléluia. C'est aussi de cette manière que nous sont assurées les plus grandes, les plus merveilleuses promesses de guérison, les plus beaux miracles de guérison, si nous confions en lui. Oui, bienheureux et béni celui qui s'attache à lui. L'homme ballotté sur le couvercle du cercueil fut finalement rejeté sur la terre ferme et retrouvé un dimanche. Chose remarquable, c'est le dimanche qui est le jour de la résurrection du Seigneur Jésus. Depuis, le tombeau du Seigneur est ouvert et le couvercle, entre guillemets, a été ôté. Pardon. Et la vie éternelle en a jailli. Par sa mort, nous pouvons obtenir le pardon des péchés. Et par sa résurrection, la justice et le salut dans une nouvelle vie dont le but est la gloire près de Dieu dans le ciel. Un jour, nous serons rejetés sur la vraie terre ferme céleste, pour autant que nous nous accrochions à l'œuvre de rédemption accomplie par Jésus-Christ. Et il est vrai que ce sera l'éternelle perfection, toute différente de ce que nous pouvons vivre et connaître ici-bas. Car cette terre où nous sommes présentement est créée merveilleusement au départ. Mais à cause du péché, de l'égoïsme humain, de la convoitise sans frein, de la volonté de profit sans limite, de la rapacité, de la rébellion contre Dieu, cette terre est en voie de destruction. Et l'Apocalypse nous annonce cette destruction avec ses causes de péché et de rébellion ultime contre Dieu. Mais en Christ, et pour les croyants, il y a le ciel éternel et parfait, et puis les nouveaux cieux, la nouvelle terre, où la justice habitera. Amen. Pardon. Quand Jésus s'est écrié « Tout est fini !» avant de baisser la tête et de mourir sur la croix, bien des choses ont changé soudain, même si les spectateurs présents ne se sont pas rendus compte de l'importance de ces paroles. Ils ont peut-être pensé que le mot « fin » venait de s'inscrire sur l'écran, à l'issue de ce film tragique auquel ils venaient d'assister. Mais qu'est-ce qui s'était vraiment achevé à cet instant de notre histoire ? 5 choses au moins. Déjà, en premier, la séparation entre Dieu et les hommes était achevée. Dans l'Ancien Testament, le grand sacrificateur entrait une fois par an dans le Saint des Saints pour intercéder entre le peuple et Dieu. Au moment de la mort de Jésus, le rideau du temple s'est déchiré, depuis le haut jusqu'en bas, nous ouvrant un accès direct auprès du Père. Désormais, nous pouvons nous approcher avec confiance du trône de la grâce. du trône de Dieu où règne la grâce. Il dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 16. Ensuite, deuxième chose, les meurtrissures du péché ont été achevées. Ce dos qui a porté le poids de la croix, qui a souffert les coups de fouet des soldats romains, a endossé tous nos péchés passés, présents et futurs. Pierre a écrit, c'est par ces blessures, c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Dans 1 Pierre chapitre 2 et au verset 24. Le croyez-vous ? Avez-vous cessé de vivre pour le péché, afin de mener une vie qui plaît à Dieu ? Notre condamnation en tant que pécheur aussi est achevée. L'expression « tout est fini » était apposée à cette époque sur le reçu d'une facture payée pour indiquer qu'elle avait été acquittée intégralement. Réjouissez-vous, vous n'avez plus rien à payer, vos péchés ont disparu. Et puis en quatrième, notre faiblesse humaine aussi est achevée. Lorsque Jésus fut arrêté, les disciples se sont enfuis, sont allés se cacher, le renier, ont douté de lui. Après sa résurrection, ils furent remplis du Saint-Esprit et partirent annoncer la bonne nouvelle partout. Le Seigneur les aidait, les soutenait dans ce travail, confirmait la vérité de leur prédication par les miracles qui l'accompagnaient, c'est-il dit dans Marc chapitre 16 et au verset 21. Enfin, en cinquième, le pouvoir de la mort aussi est achevé. La vie du Seigneur parmi nous fut un continuel défi à la mort. Sa mort, c'est l'expression de sa victoire et sa résurrection la preuve de sa toute-puissance sur elle. Aujourd'hui, il déclare, « Parce que je vis, vous vivrez aussi, vous aussi vous vivrez. » C'est dans Jean 14, verset 19. Par sa victoire, le Seigneur transforme la tombe de chaque chrétien en un court tunnel débouchant sur la lumière de la gloire divine. Par conséquent, comme il est marqué dans l'Épître de Pierre au chapitre 1, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Amen. » En 1897, un étudiant en médecine français, Ernest Duchesne, fait une découverte d'une valeur inestimable. Il démontre que la moisissure bien connue du fromage appelé bleu d'Auvergne est capable d'anéantir toute une faune microbienne. Il vient de découvrir la pénicilline, antibiotique qui sauvera beaucoup de malades de la mort. Mais personne, en ce temps-là, n'a voulu prendre au sérieux cette découverte incroyable. Il faudra attendre plus de 30 ans. Il faudra attendre que Fleming redécouvre la pénicilline en 1928. Et c'est seulement en 1943 qu'elle sera utilisée pour soigner des blessés en Algérie. 50 années, que de temps perdu, que de vie perdue pour ne pas avoir pris au sérieux la découverte d'Ernest Duchesne. Depuis toujours, Dieu se révèle et parle à ses créatures. Que de temps perdu, de vie brisée pour les êtres humains qui n'ont pas voulu le croire. C'est par la Bible que Dieu nous parle, nous prévient, nous avertit. En particulier, il y a un aspect du message de Dieu que bien des gens ne veulent pas prendre, dans lequel Dieu ne veut pas prendre, ils ne veulent pas prendre Dieu au sérieux. Celui de l'existence de la perdition, de l'enfer, attesté pourtant plusieurs fois par Jésus. Savez-vous quelle différence il y a entre les gens qui vont en enfer et ceux qui vont au ciel ? Ceux qui vont en enfer sont des coupables qui ont refusé le pardon que Dieu offre par le moyen de Jésus-Christ. Et ceux qui vont au paradis sont des coupables qui ont accepté ce pardon. Ceux qui vont au paradis ne sont donc pas meilleurs que ceux qui vont en enfer. Ils ont simplement accepté d'être graciés par Dieu. Ils lui ont fait confiance. Et voilà une réflexion à prendre très au sérieux. Ceci nous amène à notre deuxième grand chapitre. Jésus vit. Oui, Jésus vit. Un homme de Dieu a dit... Celui qui conteste la résurrection place Jésus dans les rangs des nombreux rebelles de l'histoire ou fait de lui un sage gourou, une étoile filante qui brille peu de temps et disparaît ensuite dans l'obscurité de la nuit. Sans la résurrection, les évangiles n'auraient jamais été écrits. On peut dire que nous, au XXe siècle, n'aurions jamais entendu parler de ce Jésus s'il n'était pas ressuscité. Voilà. Nous savons que l'apôtre Paul affirme très nettement, dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 15, verset 13, par exemple, « S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. » Et pour lui, pour l'apôtre, c'était si important qu'il a enchaîné pratiquement tout de suite dans le verset 17 du même chapitre. « Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. » Ce mot « vain », V-A-I-N, c'est l'expression d'un désespoir sans fond. Bâtir en vain, étudier en vain, soigner en vain, courir en vain, vivre en vain. Il existe d'innombrables synonymes pour le mot « vain » ou « vainement ». Comme stérile, échec, inutile, sans effet, sans but, raté, etc. Tout cela est négatif. Et nous voyons que par la résurrection du Seigneur Jésus, tout change et se décide. Et Paul insiste, dans 1 Corinthiens 15 toujours, mais au verset 20 cette fois-ci, « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Il est ainsi mis fin au désespoir et un rayon de lumière apparaît. Les ténèbres doivent céder devant l'éclat de la lumière. » Au verset 3 et 4 de ce même chapitre, l'apôtre Paul déclare nettement concernant Jésus-Christ, selon les Écritures, qu'il est mort pour nos péchés et que selon les Écritures encore, il est ressuscité le troisième jour. Et aucun des témoins oculaires se trouvant à Jérusalem n'a eu le moindre doute. Jésus-Christ n'était plus dans le tombeau, ni pour les soldats qui étaient de garde devant le tombeau et risquaient la peine de mort, ni non plus pour les adversaires du Seigneur Jésus-Christ, aucun doute. Ceux-ci corrompirent les soldats pour qu'ils disent « les disciples sont venus de nuit le dérober », comme il est marqué dans Matthieu 28 au verset 13. Et ce fait historique confirme que Jésus-Christ n'était manifestement plus dans la tombe. Tout un chacun pouvait voir que le tombeau était réellement vide. Il est aussi établi que son corps ne put être trouvé nulle part. Plus tard, la résurrection du Seigneur Jésus a été l'élément principal de la prédication des apôtres. Partout où ils étaient et enseignaient, il était toujours question de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus. Quelqu'un a demandé un jour, avec raison, mais comment des mensonges pourraient-ils être à la base d'une doctrine qui, dans l'histoire, a exercé une telle influence pour le bien ? Effectivement, l'enseignement de la vérité faisait partie de ce bien. La doctrine de la vérité devait-elle se baser sur un mensonge ? Il n'est pas étonnant que la vérité sur la résurrection du Seigneur Jésus soit présentée comme fausse par le père du mensonge, le diable, avec ses démons, hein, comme on le voit dans Jean 8, verset 44, parce qu'il veut ainsi priver l'humanité de son plus grand espoir. Mais Jésus-Christ a affirmé « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » C'est dans Jean chapitre 11 au verset 25 qu'il l'a dit. Et c'est pourquoi décidez-vous dans la foi pour Jésus et vous expérimenterez qu'il vit. Et vous vivrez véritablement. À ce moment-là, vous rechercherez enfin le royaume de Dieu comme il doit être recherché. Vous le trouverez et vous pourrez le mettre en œuvre, y être des participants actifs et d'heureux bénéficiaires. Mais au fait, qu'est-ce exactement que cette recherche du royaume de Dieu ? Que signifie exactement rechercher avant tout le royaume de Dieu ? Cela implique une douzaine d'exigences. Et il est bon que nous les analysions avant de nous demander honnêtement quel est notre score, en quelque sorte, pour chacune. La première, c'est d'obéir à Dieu. Donc, Matthieu 5, verset 19 dit « Celui qui obéira aux commandements de Dieu, qui les enseignera aux autres, sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Donc voici un premier élément de recherche du royaume de Dieu. La deuxième chose, c'est faire preuve d'amour. Et Matthieu 5, verset 44, nous invite à aimer même nos ennemis. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle belle affaire que ce sera. Ça ne vaut pas grand-chose. Troisième chose, rechercher la justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. C'est en Matthieu 5, verset 6. Quand on recherche le royaume de Dieu, on recherche la paix aussi. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est dans Matthieu 5, verset 9. Ceux qui recherchent le royaume de Dieu, en cinquième, marchent dans la sainteté divine. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes pour qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ainsi ils rendent gloire à votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, verset 16. Et puis, ceux qui font ainsi font aussi preuve d'intégrité. Que votre parole soit oui, oui ou non, non. Matthieu 5, verset 37. Ceux qui cherchent le royaume de Dieu et sa justice sont aussi généreux. Et c'est pour cela qu'il est marqué au début de Matthieu 6 que lorsque nous donnons de l'argent aux pauvres, que notre aumône doit rester dans le secret, et notre Père qui voit dans le secret nous le rendra. Ça nous fait aussi rechercher la maturité spirituelle. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme, voyons? C'est fondamental, mais c'est la base de l'avancement dans les choses de Dieu. C'est dans Matthieu 16 et au verset 26. Et puis, rechercher le royaume de Dieu, ça nous fait connaître la Bible. Jésus, s'adressant aux disciples, leur explique que leur problème, c'est qu'ils ne connaissent pas les Écritures. Plutôt s'adressant aux pharisiens, excusez-moi, c'est pas aux disciples, ne connaissent pas les Écritures ni la puissance de Dieu. Et puis, c'est aussi de faire confiance à Dieu, c'est le dixième point. Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, rien ne vous serait impossible. À Dieu, tout est possible. Voyons-nous dans Matthieu 17 et verset Matthieu 17 et Matthieu 19. Bénir les autres. Jésus non seulement nous enseigne ce principe, mais nous montre comment le faire, en passant beaucoup de son temps à guérir, à former, à servir, à annoncer l'Évangile. Oui, et enfin, douzième point, former des disciples. Donc, nous sommes invités à aller auprès de toutes les nations et de faire d'eux les disciples de Christ. C'est vrai, voici cet ensemble de choses qui constitue la seule manière de vivre et la seule cause digne d'y sacrifier notre vie si nécessaire. Donc, rechercher avant tout le royaume de Dieu et sa justice. De plus, cette recherche du royaume de Dieu par l'action de l'Esprit en nous va être l'occasion d'une transformation intérieure profonde, salutaire, bénéfique, céleste. Au fur et à mesure que nous parlerons de cette série de qualités, 9 qualités citées plus bas, il est bon que chacun puisse se poser la question, est-ce que ces qualités sont évidentes dans ma manière de vivre de chaque jour? Est-ce que je développe ce fruit de l'esprit au point que Dieu pourra me confier de plus grandes responsabilités pour faire avancer la venue de son royaume? Donc, la question se pose, 9 questions que nous pouvons nous poser. Faisons-nous preuve en premier de compassion et de bonté? Ah, le Seigneur l'explique que si nous avons de la compassion pour autrui, il aura de la compassion pour nous. Il nous invite à cesser de juger les autres afin de ne pas être jugés nous-mêmes. Deuxième point, faisons-nous preuve d'esprit de réconciliation. L'Écriture nous dit, si ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Oui, c'est vrai, ça aussi c'est un point important. Et puis, faisons-nous preuve aussi de volonté d'apprendre sans cesse. C'est celui qui écoute les paroles du Seigneur et qui y obéit, et c'est celui-là qui manifeste la véritable sagesse. Matthieu chapitre 7, verset 24. Et puis, faisons-nous preuve de courage. Je vous envoie comme des moutons, comme des brebis au milieu des loups. Ne les craignez donc point, dit le Seigneur dans Matthieu 10, au verset 16 et au verset 26. Oui, c'est vrai. Et puis, ceux qui recherchent le royaume de Dieu font preuve aussi de soumission. Ceux qui font la volonté de du Père qui est dans les cieux, eh bien, ceux-là sont à la fois le frère, la sœur, la mère de Jésus, là encore. C'est Matthieu 12, verset 50. Faisons-nous preuve de renonciation. Eh oui, il y a des choses auxquelles nous sommes appelés à renoncer. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'ils me suivent. Et puis en septième, faisons-nous preuve de repentance. Et là encore, le Seigneur déclare, c'est la vérité. En vérité, vérité, il nous le dit, si on ne change pas pour devenir comme les petits-enfants, on n'entrera pas dans le royaume des cieux. Matthieu 18, verset 3. Faisons-nous preuve d'humilité. Et oui, celui qui s'élève sera abaissé. mais celui qui s'abaisse sera élevé, est-il dit dans Matthieu 23 et au verset 12. Faisons-nous preuve, enfin, d'un esprit de serviteur. Et là encore, le Seigneur dit, il ne sera pas de même parmi vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Matthieu 20, verset 26. Et c'est vrai que si nous acceptons que Jésus-Christ soit le maître de notre vie et que les principes de ses paroles guident absolument notre conduite, si nous désirons ainsi la plénitude de son esprit en nous, alors, eh bien, il nous fortifiera pour que nous puissions vivre une telle vie qui soit à sa gloire et pour que son royaume puisse avancer. Amen. Jésus vit donc. Et puis maintenant, enfin, notre troisième grand point, Jésus vient. Quelqu'un dit très pertinemment, seul celui qui sait que Jésus revient peut organiser sa vie en conséquence, c'est-à-dire avoir une vie bénie. Je répète, seul celui qui sait que Jésus revient peut organiser sa vie en conséquence, c'est-à-dire avoir une vie bénie. Quand Jésus reviendra, tous, tant les morts que les vivants, constateront qu'il vit, mais pour beaucoup, il sera alors trop tard pour croire. Les apôtres témoignèrent avec zèle de la résurrection de Jésus. Ils parlèrent également avec conviction du retour du Seigneur. Aussi vrai qu'il vit, il est tout aussi vrai qu'il reviendra. Dans le livre des Actes des Apôtres, l'apôtre Pierre confirme trois faits étroitement liés ensemble. Le premier fait, ce sont les souffrances du Seigneur Jésus à sa première venue. Donc ce fut un accomplissement de la prophétie biblique. C'est pour ça qu'il dit dans Actes 3, verset 18, nous l'avons lu, « Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. » Comme les prophètes de l'Ancien Testament l'annonçaient donc, Jésus est venu dans ce monde pour mourir sur la croix et réaliser notre salut. Le deuxième fait étroitement lié aux deux autres, c'est que dans le temps actuel, avant le retour de ce Seigneur Jésus, l'humanité est exhortée à se convertir. C'est pour ça que dans Acte 3, versets 19 et 20, que je vous relis, faisant partie de notre texte de départ, « Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. » Alléluia. Avant ce retour du Seigneur Jésus-Christ, tous les hommes ont la possibilité de se repentir. Et c'est ainsi et ainsi seulement qu'ils auront le salut éternel et la vraie paix. Hélas, combien qui sont en recherche de la paix et qui ne le font pas dans la bonne direction. Eh oui, c'est vrai. C'est vrai, lorsque le Seigneur Jésus parlait à ses disciples de l'époque précédant son retour, dans Matthieu chapitre 24, son retour en tant que conquérant victorieux, il leur disait, versets 6 et 7, « Vous entendrez parler de guerre, c'est de bruit de guerre. Ne vous laissez pas troubler par ces choses, tout cela doit arriver. On verra se dresser race contre race, état contre état, on peut traduire cela ainsi. Il y aura des épidémies, des famines, des tremblements de terre. » Et oui, c'est vrai. Et nous assistons presque quotidiennement et en direct sur nos écrans au déroulement de cette prophétie. À quand, Seigneur, ton retour? Où nous réfugier pour échapper à ce cercle vicieux? James Hewitt raconte l'histoire véridique de ce couple américain qui, dans les années 80, par peur d'une guerre nucléaire dévastatrice, décida d'aller se réfugier dans un endroit isolé et tranquille où le risque serait moindre. Ils réfléchirent longtemps, étudièrent les cartes du monde, posèrent beaucoup de questions, puis finalement jetèrent leur dévolu sur les îles Falklands, où c'est les Malouines. Ils arrivèrent là-bas, tout heureux d'avoir trouvé l'endroit le plus sûr du monde, et s'empressèrent d'envoyer des cartes postales à tous leurs amis restés aux USA. Les îles Falklands, mais c'est où? Se demandèrent ces derniers. Quelques semaines plus tard, ils furent renseignés. À la une de tous les journaux, dominant les bulletins d'information de toutes les chaînes de télévision, s'étalait le nom des îles Falklands, où la guerre venait d'éclater entre la Grande-Bretagne et l'Argentine. La vraie paix, le monde ne la connaîtra que le jour où le prince de paix reviendra. Quant à nous, en attendant, nous pouvons vivre avec la paix de Dieu dans nos cœurs en nous appuyant sur ses promesses. Combien il faut donc venir à celui qui est notre paix, qui fait que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, et que le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Et puis le troisième fait sur lequel l'apôtre Pierre insistait dans le livre des Actes des Apôtres, c'était que le Seigneur Jésus-Christ reviendra d'une façon certaine pour rétablir toutes choses. Et là, j'en arrive à mon dernier verset de mon texte de départ, Actes 3, verset 21. Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement, par la bouche de ses saints prophètes. Les prophètes annoncèrent la première venue de Jésus, ses souffrances, sa mort sur la croix, pour notre pardon. Ces prophéties s'accomplirent littéralement. De la même manière, les prophètes parlèrent aussi de son retour pour l'établissement de son règne messianique. Ceci également se réalisera littéralement. Si la première chose est vraie, la seconde le sera aussi. L'apôtre Paul a complété cette vérité en disant aux nations, dans Actes 17 au verset 30, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » Il est écrit après que lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent, les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Denis, l'Aréopagite, une femme nommée Damaris, et d'autres avec eux. Actes 17, verset 30 et verset 34. Alors mes amis, rappelons, Jésus est mort sur la croix pour nous sauver. Premier point. Deuxième grand point, Jésus est ressuscité pour que notre vie ne soit pas vaine. Troisième grand point, Jésus revient pour juger la terre entière. Avez-vous déjà pris la bonne décision? Avez-vous déjà fait le bon choix? Seigneur, nous te remercions de ce que, en ce jour, nous sommes rassemblés autour de ta parole avec ce message si précieux et si solennel que l'apôtre Pierre a fait retentir en ce temps-là aux oreilles d'auditeurs qui étaient saisis, qui étaient étonnés, qui étaient mis en présence des choses éternelles, des choses divines, des choses de la gloire d'en haut et des choses qui concernent le salut de chacun. Et merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui encore, eh bien, tu es celui qui agit encore par cette même parole et qui fait ton œuvre pour chacune et chacun de ceux qui se confient pleinement en toi. Sois glorifié, sois béni pour ton action de bénédiction et de salut que tu fais encore pour ces bien-aimés qui m'écoutent. Dans ton nom précieux, amen Jésus. Amen. Voilà mes amis, je voudrais simplement vous rappeler que nous envisageons la reprise de l'évangélisation dans les villages ce samedi. Donc, le rendez-vous est ici à l'église, donc à 14h30, pour un travail de distribution d'invitations dans des boîtes aux lettres des environs. Ensuite, le culte de dimanche eh bien, se tiendra à 8h30, puis à 10h45. Vous pouvez vous inscrire sur le site ou par téléphone sans tarder si vous voulez venir à l'un ou l'autre de ces deux cultes. La réunion de prière du mercredi se tient pour le moment à 16h. Il n'y a toujours pas besoin de s'inscrire, donc à cause du couvre-feu. En attendant, que le Seigneur vous bénisse en vous sauvant, en vous faisant rechercher son royaume et sa justice, et en vous préparant pour son retour. Amen.